Bonne année 2024 à tous. Je vous envoie mes meilleurs vœux pour cette année. J'ai enregistré il y a un moment cet épisode pour raconter des anecdotes de spectacle où je répondais aux questions qu'on m'avait posées sur les réseaux sociaux. J'avais demandé de terminer comme vous le souhaitiez la phrase « Le spectacle qui ?» Trois petits points. Donc je vais répondre au spectacle qui m'a marqué, que je ne voulais pas voir, qui s'est passé dans de mauvaises conditions ou qui m'a mise en colère et bien d'autres. Pour m'aider, j'ai un fichier où je répertorie tous les spectacles auxquels j'ai assisté. Ça peut être des concerts, des comédies musicales, du cirque, de la danse, de l'opéra, de l'humour, puisque j'ai travaillé avec beaucoup d'humoristes. Et puisque je travaille dans le milieu du spectacle, j'ai vu aussi des pièces et des performances d'artistes par le biais de mon travail et pas seulement par mon envie et curiosité. Donc j'ai répondu à vos questions avec l'aide de ce fichier ou juste avec mes souvenirs quand c'était évident pour moi. J'ai largement triché car la plupart du temps je ne cite pas qu'un seul spectacle. Comme d'hab, je prends beaucoup de plaisir à parler de spectacles, donc je ferai certainement un deuxième épisode car je n'ai pas répondu à tout ce que vous m'avez envoyé. N'hésitez pas à répondre vous aussi à ces questions et pourquoi pas me les partager sur Instagram, c'est toujours un plaisir vraiment d'échanger avec vous autour de nos expériences de spectacle. Bonne écoute! Le spectacle que tu as vu, où la communication entre l'artiste et le public était totale. Je crois pas avoir de souvenir où je me suis dit « Waouh, ouais, là l'artiste il est totalement en communication avec nous ». Pour moi, les moments de connexion, ça peut être quand il y a un silence dans le spectacle et que toute la salle écoute et où on est tous happés et rivés et dans le spectacle et avec l'artiste. Mais voilà, j'ai pas de souvenir que ce soit arrivé dans un spectacle précis, mais ça arrive souvent. Et aussi, un moment pour moi de connexion avec le public et avec l'artiste, c'est le moment des saluts, le moment des applaudissements. Je trouve que c'est un moment où on tombe les masques, où le public il est éclairé, donc tout le monde se voit. Et c'est des moments où on peut se regarder, où il y a une discussion en fait à travers les applaudissements qui sont en réponse au spectacle qui vient de se dérouler. Voilà, je trouve que ça, c'est un moment de communication hyper fort entre le public et avec les artistes, mais même entre le public lui-même, enfin, de vouloir faire toujours plus de bruit, de vouloir crier, enfin, moi c'est quelque chose qui m'émeut énormément en fait, les réactions du public. Il y a des saluts parfois qui sont chorégraphiés, les artistes, voilà, ils viennent saluer dans un ordre précis et tout ça, mais il y a quand même ce moment de lâcher prise, ça y est, on a enfin une réponse du public par rapport à tout ce qui s'est passé dans le spectacle quoi. Mais en tout cas, pendant le spectacle, pour moi, est-ce qu'il y a vraiment des moments de communication entre artiste et public ? Peut-être, hein, très certainement. Mais il y a surtout ce que le public se raconte, chacun individuellement. Ce que la personne voit, ce qu'elle lit sur le visage de l'artiste, son interprétation à elle, son interprétation du texte, du ton, ce que ça renvoie chez toi en tant que spectateur. C'est interne tout ça, c'est en nous, donc c'est en communication avec ce qui se passe en nous par rapport au plateau, mais ça n'empêche qu'en jeu, bah, souvent il y a un quatrième mur, on sait qu'on est au théâtre, l'artiste il parle à une foule, il est face à une salle plongée dans le noir. Pour moi, il n'y a pas vraiment de one-to-one. Enfin, l'artiste, en tout cas, il ne pourra pas le ressentir. C'est toi, en tant que spectateur, qui va avoir l'impression que l'artiste te parle, avoir l'impression que l'artiste te regarde toi, que tout ce qu'il est en train de se passer te parle à toi. Ça, c'est, hein, voilà, c'est interne, c'est pas du one-to-one. Donc voilà, il y a des moments où je peux avoir l'impression d'être en connexion avec un artiste, mais lui, non, il ne ressentira pas ça. Pour moi, hein, c'est mon interprétation. C'est ce que je pense, moi. Voilà, il est face à une salle. Mais les moments de communication, pour moi, je pense que c'est quand il y a des réactions dans le public. Ça change tout. Et c'est quelque chose que je peux voir des coulisses. Je l'ai vu aussi quand moi-même, j'étais sur scène pour des spectacles. Un public qui réagit, qui rigole, qui applaudit, qu'on sent, quoi. On sent qu'il est là. Oh, ça donne un souffle. Parce que vraiment, des fois, le public est extrêmement silencieux. Ben, moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience de la scène, mais t'as presque l'impression d'être tout seul, quoi. Tu sais que les gens, ils t'écoutent, mais quand il n'y a pas de réaction, c'est dur, quoi. Après, c'est pas pour autant qu'un public silencieux est moins bon. Là, loin de là. Parce que parfois, c'est juste un public qui est hyper dans l'écoute et dans le respect, il veut pas trop rire trop fort, il veut pas gêner son voisin, etc. Et c'est au moment des applauses qu'on se rend compte que le public était bien là et qu'il a été hyper attentif et réceptif à ce qui s'est passé au plateau et qu'il est hyper heureux parce que des fois, voilà, il n'y a pas de réaction dans la salle, ça rigole moins que la veille ou ça rigole pas du tout. Et on se dit, oula, ça passe pas trop aujourd'hui, non, là, ils sont pas dedans. Et en fait, à la fin du spectacle, le public est en furie, il est hyper heureux, hyper chaleureux, et on se dit, ah, en fait, si. Voilà, c'est le moment de de soulagement, où on se dit, ah, ben en fait, c'est juste qu'ils étaient dans une grande écoute, quoi. Et c'est aussi hyper enrichissant d'avoir ce type de public, hein, évidemment. Donc c'est vrai que vous avez le pouvoir aussi dans la salle de réagir et de faire en sorte qu'il y ait une connexion entre le plateau et la salle. Après, faut pas trop en faire non plus parce que j'ai vu plein de stand-up où les humoristes, ils savent, ils ont des punchlines aussi pour calmer parce que je sais pas ce qui se passe. Quand il y a des spectacles d'humoristes ou de stand-up, les gens se sentent souvent plus libre pour parler dans la salle directement à l'artiste, le couper, intervenir et tout ça. Et donc souvent les humoristes ils sont habitués à ça et ils savent comment gérer cette situation. Si l'artiste il demande à interagir avec le public et tout, faut pas non plus trop en faire ou commencer à raconter toute sa vie et à sortir complètement du spectacle parce que franchement ça arrive. Et voilà, l'artiste il est ok pour un peu d'impro, mais il faut que ça reste dans le cadre du spectacle et que ça avance. Et parfois, des fois, il y a des gens qui sortent totalement du spectacle, on a l'impression qu'ils sont complètement barrés ou qui partent dans des délires. Les spectacles d'humoristes, pour le coup, ouais, là, il y a vraiment une connexion entre le public. Parce que les rires sont tout le temps là, enfin, c'est rythmé, enfin, c'est... ça fait que se répondre, en fait. Donc peut-être que les spectacles d'humour, c'est ce que je dirais où j'ai le plus ressenti de la connexion, ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un moment de grande connexion, même si je pense que c'était pas forcément ce type d'anecdote qu'attendait Simon en me posant cette question. C'était le spectacle de Ahmed Silla, où il y avait une grande partie de son spectacle, où il demandait aux gens, je crois, combien il gagnait. Je crois qu'il donnait des tranches de salaire, et c'était exponentiel. Donc les gens levaient la main, et aussi il demandait qui était au chômage, donc des gens levaient la main, donc ceux qui n'ont pas de revenus. C'était super bien fait parce qu'on ne voyait rien venir et ça faisait qu'à la fin, il donnait la parole à ceux qui gagnaient le plus d'argent mensuel. Donc forcément, c'était des patrons, des gérants, des gens qui réussissent, des gens qui ont un gros business. Et en fait, il les faisait monter sur scène et ensuite, il donnait la parole aux chômeurs. Qu'est-ce que tu recherches, toi, comme taf? J'ai un CAP, coiffure, moi, je recherche dans le BTP, voilà, des trucs comme ça. Et en fait... Et il faisait matcher les chômeurs avec les gens haut placés qui étaient au plateau et qui potentiellement pouvaient les employer. Et en fait, il les faisait se rencontrer en espérant que ça débouche sur un envoi de CV, un entretien. Au moins, ça les faisait se rencontrer. Donc après, c'était libre à eux de discuter après le spectacle, s'ils voulaient ou pas. Et voilà, lui, il espérait que ça débouche sur du boulot pour ceux qui en cherchaient. Et ça... franchement, c'était un grand, grand moment humain à vivre. Donc, c'est pas forcément une connexion artiste-public par une scène très émotive dans un spectacle ou quoi. C'est vraiment un truc hyper, hyper social et qui me vient en tête comme ça pour répondre à cette question. Le spectacle qui te ferait traverser l'Atlantique pour le voir? Eh bien, aucun. Je n'aime pas voyager et je ne le ferai certainement pas pour un spectacle. J'ai jamais traversé l'Atlantique. Pour le moment, après on peut changer, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse d'aller voyager, en tout cas aux États-Unis ou dans les pays d'Amérique. Alors par contre, je pourrais traverser la Manche pour aller voir The Cursed Child, le spectacle sur Harry Potter et l'Enfant Maudit. Ça me titille, j'aimerais bien aller à Londres, voir des spectacles, voir des comédies musicales, visiter même, je suis jamais allée à Londres de ma vie, et les studios Harry Potter aussi évidemment, mais pour aller voir The Cursed Child, moi je comprends pas l'anglais, enfin je suis très très nulle en langue, Donc je sais pas s'il y a des sous-titres quand tu es français, mais ça m'étonnerait. Mais je me dis qu'un spectacle pareil, il pourrait l'adapter et le mettre en scène dans d'autres pays, peut-être dans plusieurs années, peut-être même le jouer en France et en français. Donc j'espère un jour que ça arrivera et que ça restera pas un spectacle vraiment britannique. Et pour la technique, j'aimerais beaucoup voir ça, parce qu'il paraît qu'il y a vraiment beaucoup d'effets. Ils jettent des sorts et tout ça, et on comprend pas comment ils font. Donc ça, j'aimerais trop voir ça. Et puis, bah, l'univers d'Harry Potter, j'aimerais beaucoup voir un spectacle dans cet univers. Ce serait génial. I'm nothing like my dad. You're better. You're my best friend, Albus. A mistake has been made. We're going to use a time turner to save Cedric Diggory. Our journey has only just begun. Donc voilà, pourquoi pas traverser la Manche, mais je pense pas que je ferai plus que ça. Ça m'étonnerait grandement que je prenne l'avion pour aller voir un spectacle. Non, ça n'est pas du tout dans mes plans et je me vois pas trop faire ça. Le spectacle qui t'a le plus émerveillé. Alors je pense tout de suite au spectacle du Puy du Fou. Tu passes une journée entière, mais d'émerveillement. Je m'attendais pas à ça, j'arrivais pas à imaginer ce que ça pouvait être, un parc de spectacles. Et en fait, mais tous les spectacles sont magiques. À chaque fin de spectacle, t'as les larmes aux yeux, t'as envie de pleurer, tellement c'est beau, tellement c'est fort. Voilà, il y a beaucoup de musique épique, voilà, qui font vite monter les émotions. Techniquement, c'est énorme. Les spectacles sont très beaux, c'est spectaculaire, c'est fantastique. Voilà, c'est vraiment un parc à faire. C'est, même si je sais que c'est très, voilà, il y a beaucoup de gens qui critiquent et tout ça. Moi, je parle vraiment de la qualité des spectacles en eux-mêmes. Ouais, c'est de très 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 grande qualité, vraiment. Moi, j'étais émerveillée. En fait, les spectacles sont assez courts, mais en fait, pendant tout le long, t'as mille choses à voir, t'as mille effets scéniques, magiques, et t'es mes bouche bée. C'est incroyable. Bah voilà, je vous conseille d'aller faire une journée là-bas. C'est vraiment une journée où je peux dire que j'ai été émerveillée. Après, il y a aussi les spectacles à Disneyland, par exemple. Moi, j'ai vu seulement Mickey le Magicien et Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre. Et Mickey le Magicien, mais pareil, j'étais émerveillée. Alors que, voilà, l'histoire, elle est pas... Je m'en rappelle même pas de l'histoire du spectacle, mais je sais que j'étais dans un état de... Oh, de magie, où c'est vraiment très beau, très qualitatif, une fois de plus. C'est du gros spectacle, c'est des grosses machines, et tout est calculé, tout est chorégraphié, tout est beau, et tout est fait, ouais, pour nous émerveiller, pour le coup. It is time. Même une journée complète dans le parc, c'est fait pour nous émerveiller. Juste me balader dans les décors sans faire d'attraction, je trouve ça, ça t'émerveille. Et aussi, quelque chose qui m'émerveille, c'est les spectacles de cirque. Notamment la compagnie Accor et Accro. C'est une compagnie de cirque que j'adore. Pareil, je trouve que c'est du très grand spectacle, tellement qualitatif. Musique live, il y en a partout. C'est des super beaux numéros. Et voilà, les spectacles du cirque, c'est vraiment quelque chose aussi qui émerveille. Le spectacle super, mais que tu as vu dans de mauvaises conditions, arrivé en retard, mal placé, voisin bruyant, etc. Alors, le premier spectacle auquel j'ai pensé, c'était Salut les copains aux Folies Bergères. Donc, Salut les copains, c'est une comédie musicale. SLC, salut les copains!
Voilà. Michel et leurs amis. Annie
aime les sucettes à la nuit.
Juste pour être sûr, tu comprends ce que tu chantes?
Ben oui.
Nicole,
t'as pas du twist?
De tous côtés, on n'entend plus de ça.
Et en fait, j'étais assise et en face de moi, il y avait quelqu'un qui avait une touffe de cheveux énorme. Et j'ai lu plusieurs fois qu'on était très mal installés dans les Folies Bergères et j'avoue que ça fait longtemps que j'y suis pas allée, donc je m'en rappelle plus. Mais normalement, quand tu es assis, bah t'es pas vraiment en face de la personne, t'es un peu décalé. Et ben là, j'avais l'impression que non. Et en fait, bah je ne voyais rien. En fait, c'est la touffe de cheveux de cette personne m'empêchait totalement de voir. Et je me souviens que j'ai passé tout le spectacle à me tordre du coup sur le côté gauche parce que à côté de moi, heureusement, j'avais personne, c'était une allée. Et donc j'étais comme ça, sur le côté, pendant tout le spectacle, pour voir ce qui se passait sur le plateau. Et du coup, ça fait hyper mal au dos, ça fait hyper mal au cou. Et ben voilà, très mal installée. Il y a aussi, quand je suis allée voir Glenn Hansard, mon mec elle m'avait fait la surprise de m'offrir ce concert. J'ignorais totalement que Glenn Hansard venait à Paris. Il m'avait offert ça pour Noël, il me semble. Et en fait, on avait une place normale et une place sur un strapontin. Et donc, moi, je choisis de m'asseoir sur le strapontin parce que je voyais mieux à cette place-là que sur la place assise qui est soi-disant plus confortable, quoi. Parce que je pense que ça me centrait plus ou je sais plus, mais voilà. Et en fait, au moment où le concert commence, il y a un ouvreur qui m'a tapoté sur l'épaule et qui m'a dit « Levez-vous, levez-vous, je vous mets une chaise ». Et en fait, il m'a mis une chaise, donc déjà qui était assez confortable et plus haute que les fauteuils de la salle. Et du coup, j'étais plus haute que tout le monde, donc je voyais carrément bien le concert. Et en plus, vu que j'étais sur une place de strapontin, il y avait personne en face de moi. Bah ça, c'était la bonne surprise. Voilà, je pensais passer. En plus, le concert était très long. Je pense qu'il a joué, mais pendant 2 heures et demie. Et du coup, j'ai eu une super chaise à la place de mon strapontin. Je pense que dans cette salle, ils doivent avoir l'habitude de faire ça parce qu'il doit y avoir des sièges qui sont un peu pourris, comme notamment les strapontins. Et ils doivent avoir l'habitude de se dire, quand il y a une personne assise là, au moment où le spectacle commence, on lui change pour qu'elle soit mieux installée. Donc voilà, j'avais jamais vu ça. Et on m'a fait ce cadeau. Ensuite, quand j'ai lu Voisins bruyants, je me suis dit que ça m'était jamais trop arrivé d'avoir des gens chiants à côté de moi, qui parlent trop fort ou qui sont sur leur téléphone. Je me souviens d'un papa qui parlait très fort à sa fille. Je crois qu'il y avait un texte qui se déroulait. Je me demande si c'était pas pendant Le Roi Arthur, la comédie musicale. Je sais plus, mais un papa qui lisait à voix haute à sa fille un texte qui déroulait sur un écran et qui lui expliquait hyper fort. Et ça, je me suis dit, oh là là, si c'est ça tout le long du spectacle, s'il explique à sa fille tout ce qui se passe pendant le spectacle, ça va pas le faire. Et en fait, non, après, soit je l'ai oublié, occulté, soit il a arrêté. Mais sinon, une anecdote qui m'est arrivée et dont je me rappelle souvent, c'était lors d'une représentation de Mon cœur, un spectacle de Pauline Bureau. Un spectacle extrêmement fort qui traite de l'affaire du médicament Mediator, un médicament qui était soi-disant fait pour faire maigrir les femmes et qui en fait était un poison, un gros scandale pharmaceutique. Donc voilà, un spectacle très très fort et notamment le personnage principal, Claire Tabar. On suit son histoire à travers cette pièce et il y avait un moment dans le spectacle très très fort, très très émouvant, où elle fait un monologue. Alors je ne sais plus ce qu'elle disait, mais en tout cas voilà, c'était un moment de très grande émotion. Pour le coup, un grand moment de connexion entre le public et l'artiste, puisqu'en plus elle était seule sur scène et que c'était un monologue et qu'elle parlait mais vraiment face au public. Et en fait, il y a un moment qui a été horrible. Il y a quelqu'un dans le public qui a hurlé « Plus fort !» blanc, et la comédienne a continué son monologue, mais on sentait qu'elle était troublée par ce qui s'était passé. Et donc voilà, il y a cette femme dans le public qui a hurlé à la comédienne de parler plus fort, et mais ça, Moi, ça m'a mis dans une colère noire. Ça a sorti tout le monde de ce qui se passait, du monologue. Et ça a aussi dévasté la comédienne. Déjà, je l'ai vue à la fin du spectacle pendant qu'on commençait à démonter le décor. Et voilà, elle était pas bien. Et en fait, j'ai senti pendant tout le reste du spectacle qu'elle était plus du tout dans le spectacle, qu'elle était plus dans son rôle. Elle a fait les saluts, mais avec une tête d'enterrement, on sentait qu'elle était livide. Enfin, je pense qu'elle en a pris un sacré coup. Peut-être dans son ego d'artiste. Enfin, vraiment, la manière de faire de cette personne, de lui dire plus fort, mais comme ça, c'était vraiment dit d'une manière, mais c'était un ordre déjà, c'était hyper sec, tu sentais que la personne, elle était exaspérée, mais what quoi, en fait, pareil dans la salle où j'ai vu ça, qu'il y a des endroits de la salle où selon où t'es placé, t'as pas la même acoustique, donc ça, c'est carrément con quoi, enfin c'est dommage. Moi j'entendais très bien de ma place, donc peut-être que j'ai eu de la chance, peut-être qu'elle, elle était dans un endroit où on entendait mal, et en plus c'était un monologue mais hyper fort, hyper intime, donc forcément qu'elle allait pas dire son texte hyper fort, et au pire, bah soit t'entends pas assez, soit tu tends l'oreille, mais en tout cas tu ne coupes pas l'artiste pour gueuler ça. Et ouais, encore aujourd'hui, là, ça me met en colère, quoi. Enfin, ça me fait mal, mais c'est... Non, enfin, c'est ça aussi que je disais, quand vous avez le pouvoir de réagir dans le public, bah, vous avez aussi le pouvoir de gâcher le spectacle. Vous avez le pouvoir d'interagir à des moments où il le faut pas, ou... Enfin, je sais pas, mais jamais je me permettrai de gueuler sur un artiste pour lui dire qu'il joue pas assez fort, qu'il machin... Enfin, après, ça dépend de l'ambiance... du spectacle, hein, parce que peut-être qu'il y a des spectacles où ça peut être propice, où l'artiste demande au public d'interagir, mais là, clairement, ça ne s'y prêtait, mais pas du tout, c'est une pièce qui est bouleversante, voilà, c'est un spectacle sur des victimes d'un scandale, enfin c'est... Voilà, c'est un grand, grand spectacle qui retourne, voilà, avec des scènes très fortes. Et franchement, ça sortait de nulle part. Enfin, et pourtant, j'étais pas à Paris, hein, parce que peut-être que ce genre de comportement, c'est peut-être habituel à Paris, je sais pas. C'est peut-être très cliché ce que je suis en train de dire, et que non, mais a priori, le public parisien est assez difficile. Là, j'étais pas à Paris, et je comprends pas que cette femme se soit permise de faire ça. Enfin, elle se croit où, en fait? T'es pas toute seule, meuf, quoi. Enfin, là, en fait, t'as une salle complète... pleine, elle a pas besoin de savoir que toi t'entends pas le texte, en fait c'est... Tant pis, en fait, c'est des choses qui arrivent, c'est du spectacle vivant, des fois les artistes, ça fait partie de leur travail, hein. Ils doivent être entendus jusqu'au bout de la salle, ils doivent savoir comment déployer leur voix, faire en sorte que tout le monde les entende, mais peut-être que là, juste elle était dans un moment tellement intense d'émotion, de... Bah voilà, qu'elle s'est pas rendu compte qu'elle parlait pas assez fort. En tout cas, moi, je l'entendais très bien. Donc c'était ça aussi qui m'a énormément mis en colère. C'est que moi, j'entendais très bien. Donc ça veut dire que potentiellement, cette femme était peut-être une des seules à mal entendre. Et qu'elle a tout foutu en l'air. Juste pour elle. C'est pas comme si on était 50 depuis une demi-heure à se dire « Non mais on n'entend rien là dans la salle, il y a un problème de son, on n'entend pas ». Non, là, elle était toute seule à ne rien entendre, en fait. Voilà, ça fait vraiment partie d'une anecdote de spectateur qui m'a vraiment bouleversée, autant pour l'artiste, autant pour la continuité du spectacle après, et qui me met en colère, vraiment. Le spectacle auquel tu as assisté alors que tu n'avais pas envie de le voir. Je pense à Mozart, l'opéra rock. Je sentais pas ce spectacle, j'avais pas plus envie que ça de le voir. Mais c'est ma sœur qui adorait l'univers que proposait ce spectacle et les chansons. J'y suis allée avec elle pour l'accompagner et je me suis pris une énorme claque. Superbe spectacle que j'aimerais beaucoup revoir d'ailleurs si jamais il était remonté un jour en France. En plus c'est une comédie musicale donc vraiment j'ai voulu faire ma rebelle en n'allant pas le voir et en fait ça aurait été une grosse erreur.
Oui, le pipeau bavard je crois. Oh non, ça y est, ça me revient. La flûte bouchée.
C'est la flûte enchantée, vous le savez très bien.
Oui, une farce, pauvre farce de conteur pour artistes aphasiques et désenchantés. D'ailleurs, comment ça fait-il déjà?
Pa, 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 pa mal.
Vous savez, Salieri, je ne parviendrai jamais à le terminer, mon requiem.
Et sinon, des spectacles auxquels j'ai assisté que je n'avais pas envie de voir, il y en a eu beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de spectacles que j'ai vus parce que j'ai travaillé dessus et que j'avais l'occasion d'aller les voir. Et quand c'était des spectacles d'un metteur en scène qui m'intéressait, et du coup j'ai vu énormément de spectacles que je n'aurais jamais vus par ma simple curiosité, beaucoup de pièces de théâtre, parce que je vais en voir vraiment très peu des pièces. Donc ça c'est vraiment chouette, j'ai découvert beaucoup de super spectacles, et aussi des pièces qui m'ont moins plu, hein. Mais ça c'est pas grave, et aussi notamment des ballets, j'adore la danse, pareil de moi-même c'est pas quelque chose que je vais aller voir ou je vais aller prendre mes places, mais alors il y a des compagnies de danse que j'adore, notamment je l'ai jamais vu du public, c'est toujours des spectacles que j'ai vu que des coulisses, mais le ballet, le Malandin Ballet Biarritz, j'adore cette compagnie et leur spectacle. Le spectacle que tu voudrais oublier. Alors au début, je ne trouvais pas d'exemple. Je me suis dit, bah non, en fait, j'ai pas envie d'oublier un spectacle que j'aurais vu. C'est même plutôt le contraire. Il y en a beaucoup que j'ai oublié et j'aimerais avoir encore le souvenir de ces spectacles. Et en fait, si, j'ai un spectacle auquel j'aurais aimé ne jamais assister. C'était un spectacle de cirque. Je n'arrive jamais en plus à retenir le nom de la compagnie et le nom du spectacle, mais de toute façon, je vais un peu démonter le truc, donc je vais pas dire leur nom. Donc c'est un spectacle où il y avait une structure et où les deux acrobates évoluaient dessus. Et en fait, ils faisaient participer le public en leur demandant, avec un panneau où il y avait des noms de numéros dessus, et en plus les noms, voilà, c'était assez intriguant, mais on savait pas pour autant ce que ça voulait dire. Enfin, il y avait la femme chiffon ou la poupée chiffon, le numéro à l'aveugle où il se bandait les yeux et tout ça. Et en fait, le public, soi-disant, choisissait quel numéro ils allaient faire. Donc, ça déjà, j'ai un gros doute. Les spectateurs devaient hurler le numéro qu'ils voulaient voir. Et bon, à chaque fois, je trouvais qu'ils choisissaient un numéro que le public n'avait pas forcément crié. Et donc, c'était un spectacle extérieur, pendant un festival de cirque. Il y avait énormément d'enfants. Je pense qu'il y avait au moins 200 enfants assis devant, puis bah, plein d'autres familles. Et donc, bah voilà, par exemple, ils ont fait le numéro La Femme Chiffon. Après, ils ont fait le numéro Bandé. Donc ça, c'était hyper impressionnant. Et il y a un moment où l'acrobate est monté tout en haut de la structure et on l'a vu décrocher quelque chose. Bon. Et le numéro d'après, donc je sais plus lequel c'était, mais il commence à le faire. Et en fait, il y a une partie de la structure qui s'est détachée et qui a commencé à tomber. Et donc lui, il a lâché l'acrobate et je la vois encore tomber donc sur les tapis, hein, heureusement. Mais je la vois encore dans les airs et son expression. Et en fait, ça s'est passé hyper vite. Lui, il avait l'air d'être hyper choqué parce que du coup, il y a un bout de structure qui est tombé. Il avait l'air de s'être fait mal au bras. Il est redescendu vraiment au bout de, je sais pas, peut-être au bout de 30 secondes. Enfin, c'est assez long, hein, quand t'as l'impression déjà qu'il y a une acrobate qui vient de chuter, qu'il y a un bout de structure qui les soutient, qui se casse la gueule, qui s'est défait. Donc il descend, le spectacle est complètement à l'arrêt, elle lui demande si ça va, t'es sûre et tout, oui ça va, il est sous le choc, elle est sous le choc. Donc elle commence à prendre un micro et à dire bon bah désolé pour ce qui s'est passé, en plus c'est la première fois que son collègue fait voilà, joue le spectacle avec moi, et elle se met vraiment à fondre en larmes, à pleurer, et il y a des gens du public qui sont venus lui faire un gros câlin, ils sont venus la soutenir, voilà, je vois encore une dame lui frotter le bras comme ça pour la consoler en fait. Et après, bah, elle dit bon bah je vais vous parler de quelque chose le temps qu'on regarde ce qui s'est passé. Donc il y avait les techniciens aussi de la scène qui savaient pas trop, donc qui étaient extérieurs à leur spectacle, mais qui savaient pas trop ce qui s'était passé et tout ça. Et il y avait aussi le régisseur son qui faisait partie du spectacle, parce que par exemple quand il faisait un numéro, lui il leur tendait une perche. pour qu'elle parle au micro et pour qu'elle dise « bon, c'est quoi le prochain numéro que vous voulez ?» Donc le régisseur son, il était hyper présent dans le spectacle. Et je sais pas, il commence à faire plein de bruit et tout. Et elle, elle pète un câble, je crois. Enfin, en tout cas, ça commence à péter un câble. Et lui, il se barre. On le voit même partir avec le camion de la compagnie et tout. Enfin, c'est trop bizarre. Et aussi, donc, ils ont fini de réparer la structure et ils recommencent le spectacle. Donc, ils partent sur un nouveau numéro et à chaque fois qu'elle doit se réceptionner ou tomber dans les tapis, elle tombe à moitié à côté des tapis. Enfin, ça me semble hyper dangereux, ça me semble hyper bizarre. Je suis là, mais il faut qu'ils arrêtent. En fait, là, il y a eu la chute... Elle a chuté, il y a la structure qui s'est défaite. En fait, ils sont sous choc, ils sont plus capables de jouer, en fait. C'est mort, faut qu'ils arrêtent. Et j'avais même envie de me lever et de dire « Stop, on arrête le spectacle, là, vous êtes trop choqués. Toi, t'arrêtes pas de tomber à côté de ton tapis, tu vas te faire mal. Enfin, faut stop, quoi. Enfin, » Et moi, j'étais sous le choc. Voilà, c'était trop bizarre. Et en fait, on était donc en extérieur et il était prévu qu'il y ait de l'orage ce jour-là. Maintenant, avec les applis de météo, on sait exactement à quelle heure il va pleuvoir. Et donc, on était en famille à ce festival. Et j'ai mon beau-frère qui me dit, nous, on va y aller. Là, il commençait à pleuvoir, vraiment. Et il dit, là, vraiment, dans 5 minutes, c'est averse. On s'en va. Et puis, il commence à me dire, Camille, c'est marrant, hein, c'est fait exprès, leur truc et tout. Et moi, je suis choquée, quoi. Je lui dis, mais pas du tout, c'est pas du tout fait exprès. Elle est tombée, non. Et il y a même une dame à côté de moi qui réagit et qui dit, mais j'espère que c'est pas fait exprès, quand même. Enfin, là... avec tous les enfants qui sont en train de regarder ça et tout. Et donc lui, voilà, était persuadé que c'était fait exprès, et moi j'étais là, non, émotionnellement, mais j'étais atterrée par ce que j'avais vu. Lui s'en va, et 5-6 minutes plus tard, il se met vraiment à beaucoup, beaucoup pleuvoir, et l'artiste dit, bah désolé, on arrête le spectacle, on peut pas continuer, il pleut de trop, et du coup leur structure, c'était des tubes, donc voilà, impossible de monter dessus sans glisser, quoi. Le spectacle s'arrête comme ça, et c'est tout. Je n'ai jamais vu la fin de ce spectacle. J'ai croisé un de mes collègues aussi, je lui ai dit, mais il s'est passé quoi là sur la scène? Il y a eu un accident? Il m'a dit, bah non, j'ai pas vu ce spectacle-là, mais tu crois pas que c'était fait exprès? Je lui ai dit, bah franchement non, il y a un bout de structure qui est tombé, c'était hyper dangereux, ils se sont presque fait mal. Donc voilà. Et le soir, franchement, je rentre chez moi et j'ai même du mal à dormir. Enfin, je suis mais bouleversée par ce que j'ai vu. Je la vois encore, l'image de elle qui chute, quoi, de sa tête, de sa surprise et tout ça. Et donc ensuite, sur Internet, je fais des recherches. Aucun article disant spectacle de cirque avec une chute ou structure qui casse pendant un spectacle. Je trouve rien du tout. Puis bah, les teasers du spectacle, évidemment, ça ne montre pas ça. Ça ne montre pas du tout ça. Et en fait, c'est un festival qui dure l'été. C'était la dernière fois où je voyais mes collègues. Et à la rentrée d'après, je continue mon investigation, quoi. Enfin, parce que je savais que certains collègues que je connaissais travaillaient sur ce festival. Donc je leur dis, mais tel spectacle, est-ce que t'as bossé dessus? Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai quelqu'un qui me dit, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Ils nous ont prévenu qu'il allait se passer quelque chose pendant le spectacle. Donc bizarre. Et lui, il me dit, mais non, je pense pas que c'était fait exprès et tout ça. Et j'ai un autre collègue après qui me dit, mais c'était fait exprès. Oui, c'est dans le spectacle, ça, c'est normal. Donc j'ai fini par me dire que effectivement, certainement que c'était fait exprès, toute cette mascarade. Et franchement, bah non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je sais plus comment c'était écrit sur internet et dans la plaquette explicative, mais il me semble bien que ça parle de mettre à bout le public, ou je sais plus les termes exacts, mais il y a tout un truc comme ça, et du coup je fais tout le lien dans ma tête et je me dis, mais oui, en fait c'était fait exprès. Je n'ai pas vu la fin du spectacle, donc certainement qu'à la fin tu te rends compte que tout ça était faux. Par exemple, voilà, la scène avec le régisseur son qui s'en va, qui claque tout, qui se barre avec le camion, c'était trop bizarre. Ça faisait jouer, mais en même temps, avec tout ce qui s'était passé avant, tu te disais, mais c'est bizarre. Puis elle, normalement, elle est censée réagir. Enfin, si le régisseur son, il s'en va, elle est censée dire, bon, allez, on arrête le spectacle. Enfin, si c'est pas prévu, quoi. Enfin, c'est hyper grave, quoi. Et en fait, bah, je me suis rendu compte, bah non, que c'était fait exprès, que c'était dans le spectacle, tout ça. Et je me suis dit, mais quelle mauvaise idée. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai très mal vécu et j'aimerais bien, ouais, ou si je pouvais l'oublier, ouais, peut-être que je l'oublierais, parce que j'ai une énorme rancœur envers ce spectacle. Après, voilà, Étant donné que je ne l'ai pas vu en entier, peut-être que tout se serait expliqué et que j'aurais compris l'expérience que cette compagnie voulait nous faire vivre à travers ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas forcément plu. Pourtant, c'était spectaculaire, hein, notamment quand elle fait son numéro, les yeux bandés. Voilà, moi j'aime beaucoup voir du cirque, c'était original. L'histoire de vouloir faire participer le public, que c'était lui qui choisissait les numéros qu'ils allaient faire, ça rendait un peu le truc de c'est le spectacle unique, c'est nous qui créons le spectacle. Mais en fait, j'avais l'impression que c'était un peu biaisé et que c'était pas vraiment le cas. Donc ça, c'est naze en fait. Si tu crées le spectacle en disant ils vont choisir les numéros, mais en fait on leur fait croire qu'ils choisissent les numéros, mais en fait nous on sait très bien dans quelle ordre on va les faire, ce genre de fausse impro, moi ça m'intéresse pas du tout, je trouve ça vraiment nul, et mentir au public, moi ça me gêne. Et là vraiment c'est vrai que j'ai la grosse impression de m'être fait tromper par ces artistes, mais en même temps c'est très fort de leur part, parce que même moi qui suis dans le milieu, je suis totalement tombée dans le panneau, alors que mon beau-frère qui n'est pas du tout dans le milieu, qui ne va jamais voir de spectacle, c'est lui qui est venu me dire « Ah, super, hein, c'est fait exprès tout ça, hein, c'est pas mal. » Et moi, je me suis dit « Mais pas du tout. » Et c'est lui qui avait raison. Ça me fout la haine un peu, que lui, il ait capté le truc et pas moi. Mais voilà, moi, je suis tellement prise par ce que je vois, par le spectacle, par les artistes, que je garde un œil hyper naïf, et peut-être que c'est cool aussi, hein, de pas déceler tous les spectacles que je vois, hein, ce serait hyper chiant sinon. Donc voilà, c'est peut-être le spectacle que j'aimerais oublier. Et après aussi, j'aimerais oublier tous les spectacles que j'ai vus une première fois et que je suis allée revoir une deuxième fois, parce que la deuxième fois, j'étais toujours un peu déçue ou c'était moins bien que dans mon souvenir quand je suis allée voir une deuxième fois un spectacle. Sauf Starmania. Starmania, je l'ai vu deux fois et j'ai pas été déçue lors de la deuxième représentation. C'était une toute autre expérience de le revoir une deuxième fois. Voilà pour cette question. Quel est le spectacle qui demande le plus de travail aux techniciens ? Moi, le spectacle où j'ai eu le plus de travail en technique, c'est dur à quantifier, mais je pense à Didon et Aîné, c'était un opéra où il y avait une conduite. Donc une conduite, c'est toute la liste des choses à faire pendant le spectacle. Tout est noté, tout ce qu'il faut faire pour que personne n'oublie rien, même des petits détails. Et là, bah, la conduite était vraiment longue comme le bras. Et ouais, c'était un spectacle où on courait un peu partout, il y avait plein de trucs à faire, c'était vraiment cool. Enfin franchement, c'était mais génial. C'était un opéra assez court. Mais il y avait des acrobates, un bateau qui rentrait en scène et qui ressortait. Didon est né sur un coquillage qui est roulé. Et donc ça, je me rappelle que même la topeuse, même la régisseuse de scène, qui normalement n'a pas à faire ce genre de choses, elle avait des trucs à faire. Voilà, le coquillage notamment, elle devait le ramener en coulisses et tout ça, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire. Il y avait beaucoup de choses à faire. Le Roi Lion et les rythmes de la Terre aussi, grosse machinerie. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été témoin d'une aussi grosse machine. Tout est motorisé, tout est automatisé. C'est des décors démentiels, c'est des effets scéniques énormes avec nous. Donc là, c'était un spectacle où il y avait, oui, beaucoup de choses à faire. En fait, ça allait, parce qu'en fait, au bout de deux mois de spectacle, on était tellement rodés que j'avais l'impression qu'on avait moins de choses à faire. En tout cas, au début, quand on a créé le spectacle, on courait. Et en fait, une fois qu'on était rodé, on savait qu'on n'avait plus besoin de courir. Mais voilà, un spectacle où tu cours entre les manipulations, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est hyper enivrant. Le spectacle qui t'a le plus parlé de ta vie. Alors là, très compliqué de trouver un spectacle. J'ai pensé à Contes et légendes de Joël Pommerat, qui est une pièce sur l'enfance, l'adolescence et les prémices de la vie adulte, et notamment la première scène qui marque énormément les spectateurs de cette pièce, qui est une jeune femme qui se fait interpeller par une bande de garçons, et notamment un garçon qui est très virulent et qui l'insulte, qui l'empêche de vivre dans l'espace public. C'est toute une scène De harcèlement, de rue en fait. Donc ça m'a parlé énormément. Mais est-ce que ça parle de ma vie? Petite partie de ma vie, peut-être. J'ai pensé aussi à L'Avare, mis en scène par Ivo Vanoff, qu'on avait vu d'ailleurs ensemble, parce que c'est Claire Litz qui me pose cette question. Donc L'Avare, qui est une comédie de Molière, et qui en fait là, par Ivo Vanoff, était très très sombre, pas vraiment drôle en fait, je me souviens pas que ce soit très comique, et qui représentait un loft, on a l'impression d'être dans un immense immeuble de verre, Et notamment, il y avait des écrans partout. Je me souviens que le début du spectacle, ils jouaient à GTA, je crois. Donc, ils ont une PlayStation, des écrans dans la chambre des enfants. Voilà, il y a des écrans partout, des défilés de mode qui passent en boucle à la télé. La maison est hyper connectée. Et par contre, les personnages entre eux n'ont aucune connexion. Il n'y a pas de parole. Enfin, il n'y a pas de réelle communication. On sent que la famille est totalement fracturé, et d'ailleurs ça finit très mal, c'est une comédie de Molière qui se terminait en tragédie. Et voilà, Ivo Vanoff avait complètement réinventé la pièce, et ça je me dis aussi que c'était une pièce qui m'avait fait penser à ma vie, à la société dans laquelle on vit. Ce manque de communication, des familles qui ne communiquent qu'en disputant, qu'en s'insultant, voilà, des trucs comme ça. C'est pas forcément moi ce que j'ai vécu, mais ça, ouais, ça me faisait penser à des scènes que j'avais pu voir, ou en tout cas des scènes de notre société qui représentent la vie de beaucoup de personnes. Mais voilà, sinon je trouve pas de spectacle qui m'aurait parlé de ma vie. Et je pense même que si je vais voir du théâtre ou des spectacles, j'aime beaucoup les comédies musicales et des gros spectacles comme ça, c'est justement pour aller voir autre chose que ma vie, pour être emmenée dans un autre univers, pour découvrir d'autres histoires. Voilà, j'aime beaucoup entendre et découvrir des histoires, donc ça échappe aussi de ta propre vie. Et voilà, je pense que c'est ça que je cherche à travers le spectacle et le théâtre. Donc heureusement que je vois pas ma vie à travers les pièces que je vais voir. Il y a sûrement des bribes et énormément de phrases dans les pièces et tout ça qui me reviennent en boomerang, ça c'est sûr. Mais voilà, une pièce entière qui me parlerait de ma vie, non, je pense pas que j'en ai. Mais par contre, je serais curieuse, toi, Clarisse, de savoir si tu as un spectacle qui t'a fait écho à ta vie ou qui t'a parlé complètement. Le spectacle qui t'a mise en colère. Le spectacle avec l'acrobate qui a fait semblant de chuter m'a énormément mise en colère, mais c'est pas le spectacle en lui-même. Enfin si, en fait, c'est le spectacle en lui-même. Mais voilà, c'est pas le message qu'il renvoie, parce que je sais pas le message. C'est la Camille du montage, en réécoutant ce que j'ai dit, je voudrais préciser pourquoi j'ai autant de rancœur envers ce spectacle et pourquoi ça m'a mis en colère. C'est parce que justement, si tout ça était faux, et si ça faisait partie du spectacle, j'aurais juste aimé qu'au moment où l'acrobate a pris la parole pour dire que le spectacle allait s'arrêter à cause de la pluie, elle aurait au moins pu dire que tout ça était faux et pas nous laisser partir avec ça en fait, juste dire bon bah voilà, tout ça était une mise en scène. Elle s'est quand même mise à pleurer et du coup c'était trop bizarre de pas nous mettre au courant de la véracité de ce qui s'était passé en fait, à mon sens. On retourne à l'enregistrement et à la question du spectacle qui m'a mis en colère. Mon cœur, de Pauline Bureau, parce que voilà, ça parle d'un scandale.
Je savais que j'allais grossir, et puis qu'il faudrait perdre les kilos, mais je savais pas que mon ancien corps, je laissais sur la table d'accouchement.
Je vous prescris du Mediator. Vous allez voir, ça marche très bien, ça permet de ne pas stocker tout ce qui est sucre. Et en plus, c'est remboursé. Elle est pas belle la vie ?
En ce moment, 300 000 personnes prennent du Mediator tous les jours. Alors pourquoi attendre ?
Il y a des délais qui sont incompressibles.
Claire, moi j'ai lu votre dossier et j'y crois. Hein ? On peut tout à fait attaquer le laboratoire.
Attaquer ?
Oui.
Pardon. C'est le mot que je trouve bizarre. Je m'énerve pas souvent, alors attaquer c'est...
Je comprends, mais Claire, attaquer dans votre cas c'est de la légitime défense.
Le spectacle qui t'a donné envie d'arrêter ton métier. Alors en tant que spectatrice, aucun, heureusement, au contraire. Enfin si, ça m'a donné envie d'être spectatrice professionnelle peut-être, mais, mais en tout cas mon métier, donc je suis technicienne, donc je travaille dans le spectacle et dans les équipes techniques. Mais si la question c'était quel est le spectacle qui t'a donné envie d'arrêter ton métier, parce que ça m'est arrivé de vouloir arrêter mon métier, ou en tout cas de me poser de grosses questions, voilà, j'ai eu un moment où j'étais totalement perdue. Un spectacle qui a participé à ça, c'était Le Trou Vert, mis en scène par deux personnes dont je ne citerai pas le nom, parce que déjà je n'ai pas retenu leur nom et je n'ai même pas envie de les évoquer. Voilà, spectacle qui s'était mal passé humainement, voilà, où on était très maltraités. Même les artistes, j'ai pas de souvenir d'avoir discuté avec eux, qu'ils étaient particulièrement sympas. Le spectacle en lui-même n'était pas bon, je pense, parce que à la fin, le public huait. Et ça, mais oh là là, c'était notre revanche à nous. En fait, le public huait seulement les soirs où les metteurs en scène saluaient. Les soirs où ils n'ont pas salué, les gens applaudissaient et hurlaient, étaient super contents parce que je pense que le casting était quand même très bon et que le niveau des voix et tout ça. Donc Lutrouvert, c'est un opéra, hein, pardon, j'ai pas précisé. Les artistes étaient appréciés du public, mais par contre la mise en scène n'était pas appréciée et ils se sont fait huer, même le jour de la captation ils se sont fait huer et ils l'ont enlevé de la capta. Enfin bref, voilà. C'est sûrement le spectacle qui a participé à me poser de grosses questions sur mon métier. On m'a beaucoup demandé le spectacle qui t'a ému aux larmes ou le spectacle qui t'a le plus ému. Alors, un spectacle qui m'a fait vraiment couler des larmes, j'ai pensé au spectacle de Pippo Del Bono. Donc c'est vraiment des spectacles hybride, enfin, je ne saurais pas comment qualifier, comment catégoriser ces spectacles. C'est entre le théâtre, la danse, c'est tout un univers, Pippo Del Bono. Et je me rappelle d'avoir vu Dopo la Battaglia, donc après la bataille, et je sais que j'ai vu un autre Pippo Del Bono, mais je ne m'en souviens plus lequel, et il n'est pas dans mon fichier, donc voilà, comme quoi il me manque des choses. Je sais que j'ai vu un Pippo Del Bono avant Dopo la Battaglia, mais je ne sais plus lequel. Et par contre, je me souviens n'avoir absolument rien compris au spectacle. Pour enregistrer, j'ai fait des petites recherches et tout. Je sais que j'ai rien compris, mais par contre, parce que vraiment c'est un univers décalé... Lui, Pippo Del Bono, c'est le metteur en scène, il était dans la salle, il était à une table comme s'il était en train de faire les notes du spectacle en même temps que ça joue, et il avait un micro, et il parlait hyper fort, il courait dans la salle et tout ça, et il y avait aussi des artistes sur scène, alors il me semble qu'il y avait des artistes handicapés, il y a beaucoup de personnes différentes, de genres différents, Et moi j'ai l'impression que c'était une fresque. Et notamment, dans ma mémoire, ce spectacle, ça faisait des tableaux. Et il y avait des moments où c'était très très vitalisé. Il se passait beaucoup de choses, la musique, ça courait de partout et tout ça. Et des moments où ça se stoppait, où chaque personne venait s'installer. Et je me rappelle notamment d'une scène où tout le monde était installé les uns auprès des autres. Et ça faisait comme un tableau, comme une peinture. Et ce moment m'a fait pleurer. Et je ne sais pas dire pourquoi. Ça m'a émue aux larmes. Enfin, en plus, c'est un spectacle que je suis allée voir seule. Les deux Pippo Del Bono que je suis allée voir, j'étais seule. Donc c'est aussi une expérience que d'aller voir des spectacles seuls. Et pour moi aussi, c'est un moment où je peux pleurer beaucoup plus facilement que si j'ai quelqu'un à côté de moi, que je connais évidemment. Et rien que là d'en parler, j'ai l'émotion qui remonte. Enfin, je ne sais pas expliquer pourquoi. Ça m'émeut autant. Et il me semble que le premier Pippo Del Bono que j'avais vu, pareil, m'avait fait pleurer sans comprendre pourquoi. Donc voilà, là j'ai retrouvé des critiques. C'est écrit politique, poétique et d'une énergie folle. Le spectacle visite à la fois les champs de bataille contemporains et les démons intimes de son créateur, Pippo Del Bono. Comme un magicien, Pippo Del Bono a été capable de maîtriser la scène et de la rendre hypnotique. Ça me parle vraiment, d'être hypnotisé par ce qui se passait sur scène, alors que je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Voilà, il parle d'aliénation robotisée, de beauté libertaire, de normalisation générale. Ça ne me parle pas du tout. Enfin, je pense que j'ai rien compris de tout ça. Mais par contre, c'est un truc de... Enfin, ça te prend les tripes, quoi. Donc ils disent « La danse, le théâtre et la musique s'hybrident à merveille. Peut-être cette pièce peut-elle sembler grossière, trop intimiste, trop italienne, mais à n'en pas douter, il y a sur la scène une vitalité et une beauté rare. » Vraiment, la beauté rare, ça me parle. Enfin, c'est vraiment des scènes que je voyais d'une beauté rare, vraiment. Enfin, je saurais pas comment expliquer. Cette pièce parle à tous et accède à l'universel. Le dramaturge-performeur a obtenu le prix Ubu 2011 du spectacle de l'année pour cette œuvre lyrique et poétique. Donc ça ne m'étonne pas. Certainement l'une de ses créations les plus abouties. Alors ça me fait rire hein, de lire abouti à côté d'un spectacle de Pippo Del Bono. En fait c'est tellement poétique que quand tu vas voir ces spectacles, t'as l'impression que ça part dans tous les sens, que rien n'est maîtrisé, que lui part dans des impros, dans des délires, qu'il est complètement perché et tout. Et en fait, certainement que c'est très abouti et très maîtrisé. Et c'est ça qui est magnifique à voir en fait. Donc c'est écrit après la bataille, c'est la quintessence de l'art de ce créateur, une pièce de la maturité généreuse et porteuse d'espoir. Bon voilà. J'ai fait quelques petites recherches parce que c'est un spectacle que j'ai dû voir en 2012, donc ça date. Et a priori, il y avait Marie-Agnès Gillot dedans. Je sais plus si je l'ai vu, mais il me semble que oui. Ensuite, un spectacle qui m'a émue aux larmes, c'est 31. Un spectacle musical magnifique. Et notamment, la fin du spectacle m'a anéantie. Et pour le coup, m'a parlé de ma vie. Parce qu'à la fin... les deux personnages se rendent compte que leur famille s'est écrasée en avion. Et donc ils ont perdu en gros leurs parents, enfin ils se retrouvent orphelins en fait. Et ça tu le sais à la fin du spectacle et ça m'a anéantie parce que moi j'ai perdu ma mère. Et ça m'a anéantie de voir ça dans un spectacle. Enfin, c'est rare quand même de voir un spectacle où des enfants ou des jeunes en tout cas perdent. Leurs parents. Le dernier spectacle pour lequel j'ai pleuré, c'est Smile, pièce de théâtre sur Charlie Chaplin. Voilà, c'est très très émouvant. Si vous voulez vivre de grandes émotions, allez voir Smile. J'ai pensé aussi au concert de Michael Gregorio, donc il y a un imitateur. Je me rappelle les moments où il se mettait au piano et où il imite Michel Berger, chanter Diego. Ça m'avait fait pleurer. Et une dernière chose et un dernier spectacle qui m'a fait énormément pleurer, je pense que j'ai jamais pleuré autant, et c'est aussi parce que j'étais seule et que je me suis permise de le faire, c'est quand je suis allée voir pour la première fois Les Funambules, donc il y a un collectif contre l'homophobie. Donc aujourd'hui ils ont un deuxième spectacle qui est sur les femmes, mais leur tout premier spectacle c'est un spectacle avec Stéphane Corbin qui raconte beaucoup de choses, beaucoup d'anecdotes, et moi je ne m'étais jamais rendu compte ce que ça pouvait être la vie d'un homosexuel en fait, parce qu'en fait pour moi ça me semble tellement normal que n'importe qui vive la vie qu'il a envie de vivre, et notamment encore plus sa sexualité, donc qui est quand même censée être de l'ordre de l'intime, en fait. Les hétéros, on s'en fout de ce qu'ils font sexuellement, donc pourquoi on irait s'occuper de la vie sexuelle des homosexuels? Donc en fait, pour moi, voilà, ça me semble tellement normal qu'un homo puisse être homo, que je m'étais jamais posé la question de toutes les difficultés que ça pouvait engendrer dans leur vie, voilà, de devoir se cacher, de peut-être même jamais ne jamais s'assumer, voilà. Il y avait le récit d'hommes qui, toute leur vie... ont une épouse, ont des enfants, alors que ce sont des homosexuels refoulés. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Et au bout d'un moment, mais j'ai pas arrêté de pleurer, en fait. Je n'ai fait que pleurer, chanson après chanson. Je me suis laissée aller, je me suis vidée par toute cette émotion-là de choses que je ne m'étais pas rendu compte. Parce que voilà, en plus, je suis baignée dans un monde... où il y a beaucoup d'homosexuels, où on est libre de s'habiller... un peu plus libre de s'habiller comme on veut, d'être qui on veut, dans la sphère en tout cas du théâtre, de personnes qui ont un esprit ouvert et où l'artiste peut être porteur de cette liberté. Et donc voilà, jamais je m'étais dit que ça pouvait être aussi dur, et que c'est dur d'être homosexuel, que ce n'est pas un choix. Que c'est en toi, et que ça te tombe dessus, en fait. Donc après, c'est à toi de décider de vivre ou non cette homosexualité, et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément émue aussi. Enfin... Donc voilà, Les Funambules, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes sur Les Funambules.
L'homme que tu serrais dans tes bras, et dont tu épousais les pas, cet homme, ce n'était pas moi. je n'étais pas fait pour toi. Seulement je ne le savais pas. Pardon, je ne le savais pas.
Pour celui qui n'aime que les hommes, je pense que je l'ai su le dernier. Peut-être étais-je bien content de son silence. Sa mère avait deviné. Dire que je ne fus pas troublé serait mentir. Je n'ai trouvé qu'une façon de réagir. Je lui ai tendu les bras. Découvrir combien il avait pu souffrir, c'est assez compliqué comme ça. Il n'y avait qu'à tendre les bras. Il n'y a rien d'autre à faire ou à dire. Il suffit de tendre.
On m'a aussi posé la question, quel est le spectacle qui t'a le plus marqué ? Ça, on me l'a posé plusieurs fois. Donc un spectacle qui m'a marqué, ça va être aussi un spectacle qui m'a fait pleurer. Enfin, c'est des émotions tellement fortes d'être émue que c'est forcément des spectacles qui marquent. Donc 31 m'a beaucoup marqué. Je pense que c'est le spectacle qui m'a le plus marqué. Et dernièrement, un spectacle qui m'a énormément marqué et qui m'a fait pleurer aussi, c'est Starmania, l'opéra rock. Je suis très 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 marquée par ce spectacle, profondément, comme jamais, je pense. Et je pense faire un épisode dessus, il est en cours d'écriture, et je pense que je vais l'enregistrer un jour, il faut que je l'enregistre un jour. Voilà, parce que j'ai besoin de parler de comment ce spectacle m'a marqué si profondément, vraiment. Le spectacle qui s'est mal passé. J'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de spectacles avec des problèmes techniques, mais notamment, j'ai vu un problème technique quand je suis allée voir La Légende du Roi Arthur, donc la comédie musicale. En fait, je suis allée le voir deux fois dans la même journée. Je suis allée à la séance de 15h et à la séance de 20h. Donc à la séance de 15h, aucun problème, en tout cas moi je n'ai rien vu. Et à la séance de 20h, le spectacle commence avec Merlin qui est dans la salle et il y a un écran avec un corbeau, il me semble. Merlin parle avec ce corbeau et il y a une bande son qui court, donc le corbeau répond à Merlin, etc. Et à un moment, la vidéo s'est figée. Et donc dans la vidéo, on voyait le corbeau qui regarde au loin, puis quand il répond à Merlin, il se tourne vers Merlin, enfin voilà. Et il y avait tout un effet à la fin de la vidéo, où il me semble qu'il y avait beaucoup de corbeaux qui s'envolent, et ça faisait un effet super, super sympa. Et en fait, la vidéo s'est figée, donc moi, mon cœur s'est serré quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, il y a un problème !» Et vraiment, c'est le début du spectacle, hein, ça démarre. Et en fait, heureusement, la vidéo et le son devaient être séparés, donc le son continuait de tourner. Donc il y avait toujours les réponses du corbeau quand Merlin parle, mais par contre la vidéo était figée. Je me suis sentie mais tellement mal, je me suis dit le spectacle commence avec un problème technique. Waouh ! Là, quand ça arrive, c'est le genre de choses où tu te sens mal. Enfin, tu vas avoir du mal à être dans le spectacle quand t'en fais partie. Tu te dis, mais c'est tendu et pourvu que ce soit la dernière chose qui se passe mal, mais du coup, tu te dis, ça peut être un enchaînement de problèmes après. Donc voilà, il y a eu ça. Donc il n'y a pas eu l'envolée de corbeaux à la fin, je sais plus. Non, si, la vidéo est repartie. Mais du coup en décalé avec le texte. Donc en fait, moi qui avais vu l'après-midi la version où tout se passait bien, bah voilà, on voyait bien que le corbeau se tournait quand il répondait et tout ça. Et là, bah du coup, c'était en décalé. Mais je crois qu'ils ont réussi à bien se dépatouiller quand même. Enfin, en fait, dans mon souvenir, j'ai l'impression que ça s'est figé hyper longtemps, alors qu'en fait, ça a peut-être duré que une ou deux secondes. Et finalement, bah ça allait quand même. Mais voilà, il y a eu ce problème technique-là. Je me rappelle aussi de Dios Provera, c'était un opéra de David Bobet où il y avait une guirlande qui s'était coincée et en fait le mouvement continuait, donc t'avais un bout de guirlande qui descendait puis le reste qui restait accroché. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas du tout empêché le bon déroulement du reste du spectacle. C'est des petits trucs comme ça que tu remarques. Après voilà, quand je me suis dit un spectacle qui s'est mal passé, j'ai pensé au spectacle d'humoriste qui démarre. Donc d'humoriste avec une salle vide. Donc voilà, où parfois tu joues devant même pas une dizaine de personnes qui ne rigolent pas, parce que forcément, une salle pleine face à un humoriste, c'est beaucoup plus facile de rire que quand t'as trois personnes dans la salle. Et du coup, bah, c'est très dur, quoi. Enfin, c'est vraiment des moments qui sont durs. Enfin, si en plus le public réagit pas ou juste sourit mais ne rigole pas bruyamment, bah voilà. Mais en même temps, a priori, faut passer par là quand t'es humoriste, faut faire des plateaux, faut se prendre des bides et tout ça pour s'améliorer, tester ses blagues. Donc, voilà, c'est pas vraiment un spectacle qui se passe mal, c'est dans l'ordre des choses, en fait, c'est le début de carrière de quelqu'un, donc forcément, faut qu'il se fasse la main, faut qu'il s'améliore et tout ça. Ça me rappelle un problème technique que j'avais eu avec une humoriste, justement. Mais je pense que je vais garder ça pour un prochain épisode. Je referai certainement ce format. Il me restait des questions, mais j'ai d'autres idées, d'autres anecdotes que je pourrais raconter. Donc je referai certainement ce format. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je voudrais que ce soit un format pas trop long. Et la Camille du montage se rend compte qu'on est à une heure d'épisode, donc j'ai bien fait d'arrêter. Si ça vous plaît, faites-moi signe sur Instagram, la joie de Camille, ou par mail, pour ceux qui n'ont pas Insta, la joie de Camille, tout attaché, @hotmail.com. Je ferai un épisode 2 pour répondre aux autres questions, ou vous pouvez toujours m'en envoyer des nouvelles. Merci, vraiment merci à tous ceux qui m'ont envoyé des questions. C'était super chouette de se replonger dans ces souvenirs et aussi de me rendre compte des sujets qui vous intéressent. À bientôt !